Commenter l'actualité relayée par la presse togolaise, c'est bien la raison de notre présence dans cette tranche 11h-12h30. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre fidélité à ce programme de Canal FM. Michel Tomega est à la commande technique. Jérôme Akoutia assure la mise en ligne sur Facebook, YouTube et canalfm.com. Vous suivez cette émission sur Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokoré, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapaon et Ibn Radio et Radio Les Bénins sur Internet. Pour le débat de ce jour, nous avons autour de la table Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour Fuseni, bonjour Amrazé Aylon, bonjour à nos amis derrière la belle vitrée. Et puis surtout, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre chaque jour de la semaine. Je vais parler des amis du club de la presse.
D'accord. Est-ce que finalement le trou a été remblé?
Oui. Le même si je ne suis pas entièrement satisfait, d'abord j'attendais vers la fin de l'émission pour dire merci à ceux qui ont pensé à ce trou-là. Ils sont venus le rembler. C'est vrai que avec les pluies, ce remblai ne peut pas régler le problème totalement. Mais déjà, il y a certaines bonnes volontés qui ont agi. Merci à eux. Je ne les connais pas, mais merci déjà à eux. Et ça doit continuer dans ce sens.
D'accord. Ouais. Elom Atisogbe du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom.
Bonjour Fousseni. Bonjour à tous les confrères en studio. Bonjour Canal FM. Et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs du bout des ondes.
Vous nous avez manqué un petit moment.
Oui, c'est vrai. C'était pas volontaire, il faut le dire. Ben, je suis de retour. C'est le plus important.
D'accord. Bienvenue.
Merci.
Ambroise Kondio du journal Les Guardianes. Bonjour Ambroise.
Fousseni, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour tout le monde. Je voudrais profiter ici pour saluer la rencontre qui s'est tenue entre les représentants des écoles privées du Togo et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, bon, disons le ministère, par rapport aux frais de scolarité dans les écoles privées. Je me rappelle, on avait déjà animé une émission, ça fait plus d'un an, près de deux ans ici, avec le ministre Kokoloko. Et je lui disais que quand on a fermé l'école, le CG Nyekonakwe et le CG à Balepedo, pour pouvoir trouver des bailleurs de fonds pour les reconstruire, c'est lui-même qui l'en a ajouté, qu'il faut fermer ces écoles, qu'il faut revoir ces écoles. Et deux semaines après, l'école a été fermée. J'ai ajouté qu'il y a un problème qui se pose au niveau des établissements publics, privés. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation exponentielle ou exagérée des frais de scolarité, qu'il va falloir que le ministre regarde sur ce point-là pour éviter que les parents soient asphyxiés par rapport aux frais de scolarité. Ces derniers temps, il y a certains établissements qui ont augmenté 15 000, d'autres 10 000, d'autres 5 000. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, quand j'ai appris, j'ai lu hier qu'il y a eu une réunion dans ce sens, j'ai dit, tiens, j'en suis très fier parce qu'actuellement, ça chauffe à Lomé. Les caisses sont rouges aux parents et ce n'est pas le lieu à cause de l'augmentation du SMIC que les chefs d'établissement ou les établissements privés vont à satiété ou à vouloir augmenter exagérément les frais de scolarité. 10 000 francs, 10 000 francs, c'est trop. 10 000, et il y en a certains établissements qui n'ont même pas eu l'amabilité d'informer les parents. Les parents ont été informés et même si vous êtes sur une plateforme, vous n'avez pas le droit de... Seul l'administrateur peut réagir sur la plateforme. Je trouve ça anormal. Donc, j'encourage le ministre à aller au fond de ça. Et j'avais déjà dit ici, plafonner, c'est-à-dire avoir un plancher et un plafond pour les frais de scolarité dans le privé.
Au même moment, les écoles privées ont des difficultés qu'il ne faut pas ignorer.
Non, les difficultés, si tu veux la contradiction, je vais t'apporter du grain à moudre.
D'accord.
Parce que cette histoire-là, c'est vrai que les écoles privées font des efforts. On fait tellement dans ce pays en formant les élites. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les écoles confessionnelles, les collèges et les lycées confessionnels. Je parle des collèges protestants, des catholiques et autres. Maintenant, aujourd'hui, si les écoles privées sont là, c'est pour faire plus. Parce qu'il y a des écoles qui sont très loin. Quand ceux-là qui veulent, par exemple, aller au lycée technique et qui sont à Kato ou à Ségbé, à Clémé, chaque matin, avec cette route étroite-là, ils sont obligés de prendre des médias avec des cas d'accident, tout ça là. Donc, si jamais on désengorgeait le lycée technique dans la zone Kato, dans la zone Ségbé, ce serait une bonne chose. Maintenant, il y a des écoles privées qui peuvent relayer ça aussi. Ça, on les en félicite. Mais il ne faut pas qu'ils en profitent pour exagérer au niveau des frais de scolarité. Donc, moi, j'encourage le ministre à aller dans ce sens en plafonnant et en définissant un plancher de ces frais de scolarité-là pour que les parents soient soulagés. Déjà, les fournitures scolaires sont très élevées en termes de prix. les cahiers de format grand format là qu'on achetait à 900 francs, c'est à 1600 francs aujourd'hui.
D'accord.
Merci. Bon, oui, mais ce que Ambroise a dit, c'est pertinent. Je me rappelle que Michel et moi, on était sur une radio il y a quelques jours pour parler de ce sujet. C'est un sujet très important et je me félicite de savoir qu'il y a une réunion au ministère des enseignements primaires et secondaires avec les fondateurs d'écoles privées laïques pour parler non seulement de l'écolage ou des frais de scolarité, mais d'autres choses. Et c'est quand même quelque chose de salutaire pour dire que la presse ne cesse de faire son travail. Parce que quand c'est bien, il faut aussi qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Et on avait fait ce débat lundi sur une radio. Et par la grâce de Dieu, dans la semaine, en même temps, il y a une réaction.
D'accord.
Ce n'est pas quand c'est mauvais tout le temps qu'on doit dire que bon, il faut l'enfermer, il faut le traîner, il faut le faire. Non. Ça voudra dire que la presse continue de faire son travail.
Son travail.
Et
elle
joue
est
son rôle
elle est écoutée aussi
de sentinelle.
Par les
et elle est écoutée.
D'accord.
Donc, dans un autre registre, Ambroise a parlé des frais de scolarité. Oui, c'est vrai. C'est de ça qu'on parlait. Ça dit qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que bon, les moments sont durs, les temps sont difficiles. Et quand les fondateurs augmentent les prix, ou les collages, par exemple, pas les prix, c'est pas une marchandise. Quand les fondateurs d'écoles privées augmentent les prix,
les
frais scolaires chaque année ou les collages, mais ils ne répercutent pas ça sur le salaire des enseignants.
C'est ça le problème.
Ils ne répercutent pas ça sur le salaire. Mais maintenant, à quoi ça sert d'augmenter les collages ou les frais de scolarité chaque année, par exemple? Ils ne donnent pas suffisamment de raisons. Sinon, ils ne donnent aucune raison. Ils vous disent seulement que, bon, on a augmenté cette année de 5 000, de 10 000, de 15 000, de 20 000. Mais de toutes les façons, à un moment donné, il faut que l'autorité régule le milieu de l'école privée. On ne dit pas de venir fixer un prix en disant que, bon, telle école privée, c'est 10 000 francs que vous allez percevoir par élève par an. Non. Mais il faut que le ministère d'enseignement primaire et secondaire régule l'écolage, les frais de scolarité.
Peut-être en fonction des investissements aussi.
Voilà, les écoles privées viennent en complément à ce qui se fait au niveau des écoles publiques parce que les écoles publiques n'existent pas partout sur l'ensemble du territoire. Mais les écoles privées font un travail salutaire, un travail d'éducation. Mais ce n'est pas l'occasion de faire du business en profitant des parents, en profitant de ce qu'il y a déjà avec la vie chère qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État ou le ministre de Cocoroco régule les écoles privées par rapport aux frais de scolarité
D'accord.
et à l'écolage qu'elles perçoivent.
D'accord. Monsieur Tadja.
Non, c'est vrai. Il faut que le ministère régule, mais il a aussi les moyens de contrôler. C'est là où mon inquiétude
réside.
Oui. Parce que on a pris des mesures, mais par la suite, ça n'a pas donné les fruits escomptés. Je vais parler des répétitions dans les établissements privés que le ministre a m'ont donné à sortir un communiqué pour interdire. Mais ça continue de la plus belle manière. Voilà des mesures comme ça qu'on prend, mais qu'on n'arrive pas à vraiment contrôler sur le terrain. C'est tout ce qui m'inquiète. Parce que si on prend des mesures de plafonner les collages, il faut qu'on ait aussi les moyens de contrôler. Parce que vous avez vu l'année passée ce qui s'est passé par rapport aux fournitures scolaires. On a limité les fournitures scolaires par élève, par classe. Mais les établissements à l'aide de leur volonté, de leur chemin, et faisaient appliquer aux parents ce dont ils sont, en tout cas, capables de demander. Et les parents se pliaient sans que le pouvoir public n'ait les moyens de contrôler. Moi, c'est tout ce qui m'inquiète. Sinon, je ne pense pas qu'il y a un Togolais qui est un Togolais actuellement qui puisse dire que lui, il se frotte les mains. À moins que vous soyez dans une classe, une catégorie de Togolais que nous connaissons. Sinon, la plupart des Togolais, vraiment aujourd'hui, on ne sait pas à quel sens se jouer. Ça ne va pas. Et si aujourd'hui, avec les enfants, il faut encore augmenter les collages, et surtout que, comme l'homme le disait, ça, on ne le sent pas sur le salaire des enseignants, alors on s'affrise un peu de l'escroquerie au niveau des établissements privés. Et donc, le ministère a du pain sur la planche.
D'accord. Merci, Michel Tchadja. Nous attendons Jean Legrand Polorinier du journal Canal D. Je suis chargé de la modération du débat de ce jour. Mon nom est Fousseni Saïbou. Nous poursuivons avec le transport aérien. Nous parlons précisément de la compagnie Askaï. Le Togo détient depuis lundi 14,39% des parts dans cette compagnie panafricaine, rappelons-le, fondée par un Togolais en la personne du ministre Kofi Diondo. Écho du pays titre, le Togo acquiert 14,39% des actions chez Askai. On lit dans Symfony, le Togo, nouvel actionnaire d'Askai, Saniaya, il s'agit pour l'État d'un investissement stratégique. Et puis, transport aérien titre Ouara les vainqueurs, le Togo fait son entrée dans le capital social d'Askai. Alors, Michel Tchadja, à défaut d'avoir sa propre compagnie, le Togo investit dans la compagnie Askai que nous connaissons très bien.
Ah oui, comme le ministre Sani Yaya lui-même le dit, c'est un investissement stratégique. Nous allons voir ce qui va advenir dans le futur, parce que vous savez que c'est une compagnie qui est en tout cas qualifiée d'une une compagnie du futur, parce que c'est une compagnie et qui, sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés. Depuis la création de cette compagnie, le lancement du premier, en tout cas, du premier appareil dans le ciel, en tout cas, au niveau de l'Afrique, je pense que les responsables de cette compagnie, notamment l'ancien ministre Gervais Diondo, ont montré que ils étaient capables de faire quelque chose de sérieux pour non seulement le Togo, mais pour l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est une compagnie qui, depuis quelques années, est vraiment fait du bon travail. C'est vrai, il n'y a pas des choses sans difficulté. C'est vrai, les difficultés, ça arrive à tout moment, mais les responsables de cette compagnie ont montré au fur des années que ceux qui avaient cru en cette compagnie ne sont pas trompés. Et je pense que c'est dans le prolongement normal des choses que l'État togolais aujourd'hui, qui veut, en tout cas, qui a pris, j'allais dire, une part importante du capital social, 14,39%, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que l'État est en train de vouloir soutenir d'une manière ou d'une autre cette compagnie qui fait la fierté nationale. Parce que dans les airs en Afrique aujourd'hui, aux côtés des autres compagnies, je pense que Askai fait la fierté des Togolais. Mais maintenant, c'est de voir comment ça va être ça va être géré dans le futur pour ne pas tomber un jour dans les travers de Air Afrique qui avait fait la fierté de l'Afrique, mais que des gens à un moment donné ont voulu liquider pour tout simplement de la mal gouvernance. Et donc je pense que si l'État togolais s'est frayé du chemin vers cette compagnie, c'est qu'il y a du sérieux.
D'accord. Et alors, Mathis Obé, espérons que, comme Michel a dit, les Africains ont pu tirer les leçons de la défunte compagnie Air Afrique et que Askai saura relever les défis.
Bon, vous savez, Askai, c'est toute une école. Moi, je suis fier toujours de constater ou de savoir que c'est un Togolais, quand même quelqu'un de très respecté, de très respectueux. Je veux parler de M. Gervais Kofi Diondo, qui est le président du conseil d'administration de cette boîte. Et quand vous parlez d'Askai aujourd'hui, c'est une fierté non seulement togolaise, mais une fierté continentale africaine. Parce que la compagnie même, son slogan, c'est la compagnie panafricaine. Et donc, vous voyez donc le schéma dans lequel cette compagnie s'inscrit. Et donc, le fait pour l'État togolais de prendre 14,31% de l'actionnariat, c'est quelque chose de très, 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 très significatif, parce que ça fait 6 milliards de francs CFA investis dans cette compagnie. Et n'oubliez pas que Askai, à ses débuts, avait perdu beaucoup d'argent. C'était pas aussi rose au début d'Askai. Ils ont perdu beaucoup d'argent avant, finalement, de tourner à l'équilibre, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le partenaire de référence Ethiopian Airlines, qui se trouve du côté d'Addis Abeba, le géant du ciel africain, ils ont quand même réussi à damer le pignon à beaucoup de compagnies. Et moi, je salue ce partenariat entre Askai et Ethiopian, parce qu'Askai a très vite compris que pour grandir, il faut quand même rester à l'ombre d'un géant, de quelqu'un qui est votre grand frère. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que Ethiopian Airlines, c'est une compagnie de référence internationale. Et maintenant, le plus grand défi en matière de transport aérien, vous savez qu'en Afrique, le continent est le premier sur le plan mondial en termes d'échange de marchandises par voie aérienne. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est l'Afrique qui est le premier continent. Et les défis aujourd'hui, pourquoi est-ce que les compagnies aériennes disparaissent, Air Afrique et tout ça, il va falloir qu'on puisse faire un synopsis parce que beaucoup de pays aujourd'hui ont investi dans des compagnies qui portent l'étendard de leur pays. Par exemple, Air Côte d'Ivoire, qui est financée par l'État ivoirien. Vous prenez par exemple, d'autres pays qui ont également leur compagnie privée, leur compagnie nationale, RAM, Royal Air Maroc, etc. Donc, il va falloir qu'au niveau des États, on puisse investir davantage. On ne puisse pas confier le monopole. Parce que le problème aussi, c'est qu'on confie le monopole des services aéroportuaires à des gens qui, des fois, ne répondent pas ou ne font pas les meilleures offres. Et ça fait que les billets d'avion sont chers. Ça fait aussi qu'il n'y a pas de connectivité dans des capitales. Par exemple, vous prenez l'axe Kinshasa-Libreville. Ça fait combien? Ça fait 800 km de distance, à peu près 1h, 1h30 ou 2h maximum de vol. Mais quand vous prenez Kinshasa-Libreville, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de liaison de Kinshasa-Libreville. Pour faire Kinshasa-Libreville, vous devez passer par Lomé ou Paris. Donc, vous ne pouvez pas être sur le continent africain, prendre un avion de Kinshasa, aller à Paris avant de revenir à Libreville. Donc, ça veut dire que, alors que Libreville, vous pouvez rester là et regarder Libreville comme ça. Mais il n'y a pas de connectivité. En réalité, on a plein de défis. Et j'espère que les compagnies africaines vont pouvoir les relever parce que Askai a quand même prouvé sa capacité à multiplier les connexions, les connectivités entre les destinations africaines pour que les Africains et tous les passagers puissent se sentir à l'aise.
D'accord. Ambrose Mondio, en tout cas, Askai existe, je crois, depuis 2008 et tout semble bien marcher pour elle, n'est-ce pas?
Oui, c'est ce que nous lui souhaitons parce que tout comme EcoBank et Askai aujourd'hui, les bébés de M. Diondo Kofi, qui d'ailleurs ont grandi et qui font la fierté de notre pays, le Togo. Moi, je ne ferai que saluer cette initiative qui aujourd'hui est devenue une réalité en Afrique et ailleurs. Et l'entrée du Togo dans le capital n'est que la continuité de ce qu'un Togolais a eu à créer, à initier. Et donc, ici, au moins, on peut s'attendre à une saine gestion de la chose, parce que ce n'est pas un truc typiquement togolais. Quand la chose est typiquement togolais, c'est la question de la mauvaise gestion qui intervient souvent. On avait connu les Air Togo ici. On savait ce que ça a donné. Je me rappelle même du siège qui est à côté de vous, qui se trouvait à côté de vous ici, derrière le cabinet à Kriboulou là-bas. Et ça fait au moins une dizaine d'années qu'on n'a plus vu ça. Donc, Askai est une compagnie régionale créée ici au Togo. Si l'État togolais participe à près de 15%, et je crois que c'est grand. C'est pas un pourcentage insignifiant. C'est en matière de participation aux actions, c'est terriblement grand. Donc j'estime que Askai peut faire mieux que Ethiopian, parce que Ethiopian est aujourd'hui partout, hein.
Partout.
Et maintenant il va falloir chercher à bien localiser, à trouver un siège d'atterrissage d'entreposage des avions. Quand vous allez à Addis, même à 1 kilomètre pied ou à 100, comment eux-mêmes ils ont leur jargon, 1 kilomètre pied de l'aéroport, Addis est comme Addis Dogomé. Addis est comme tout Addis Dogomé. C'est un grand aéroport. Le Togo n'a pas un grand aérogare en termes d'espace. Et donc, s'il devait y avoir une compagnie que le Togo doit abriter, il faut qu'il y ait de l'espace. Parce que l'actuel aéroport se trouvant déjà en plein cœur de Lomé et en pleine agglomération au niveau des bâtisses. Donc moi je ne ferai que encourager l'État togolais à aller plus que ça, pourquoi pas aller à 30% et on verra.
D'accord, nous avons été rejoints par Jean Legrand Polorigny, bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour Conférence Duré, bonjour à Canal FM.
D'accord, un mot sur Askai, cette convention entre Askai et l'État togolais.
Oui, les uns et les autres ont déjà abondé dans le sens. Je ne peux que me réjouir de cette action de l'État togolais. Moi, je l'attendais depuis véritablement très longtemps parce que notre pays s'est engagé à faire du... Nos autorités sont engagées à faire du Togo un hub logistique et aérien. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses que ce accord est intervenu parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le fret aérien contribue à beaucoup en matière de développement. Quand vous prenez par exemple Air France, son 6% du chiffre d'affaires de Air France est fait à titre des transactions en Afrique. C'est dire que le marché est vraiment grand. Et si nos pays savent vraiment s'y prendre, il y a de la matière, il y a de la manne à gagner. On ne peut pas laisser le monopole à ces entreprises étrangères qui continuent de brasser des milliards, je dirais, que simplement nous avons un problème de mauvaise gestion. Parce que moi, je dis qu'en réalité, le potentiel est là. L'Afrique a la capacité de rivaliser avec l'Europe. On l'a démontré à suffisance. Et si Air Afrique et les autres compagnies que nous avions d'antan aujourd'hui n'existent plus, tout le monde sait ce qu'il y a à la base. Et si aujourd'hui on veut rétablir les choses comme cela se doit, il va falloir vraiment travailler au niveau de la bonne gestion. Et je crois que le fait que l'État togolais investisse dans cette société, vu que le capital est détenu en majorité par des externes, je crois que la gestion déjà ne pose pas souci. Mais l'État togolais vraiment a beaucoup d'intérêt à le faire. Parce que c'est toujours une fierté que ce soit un Togolais qui a la base et que l'État togolais ait une part dans ce capital.
D'accord. Et qui demandait pourquoi ne pas ressusciter Air Togo, disparu depuis 2000, 2002.
En réalité, et vous savez, investir dans une compagnie aérienne, ce n'est pas un investissement qu'on fait dans une épicerie. Hein. C'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de fonds. Vous avez vu, l'État a mis 6 milliards, qui constitue 14% seulement de l'actionnariat. Donc c'est 6 milliards. Mais là, après, vous avez vu ce qui s'est passé avec d'autres compagnies dans les pays aériennes. Parce que les compagnies, en réalité, comme je l'avais dit, constituent des porte-étendards de ces pays. Mais la gestion n'est souvent pas optimale. Vous avez vu toutes les difficultés aujourd'hui à Côte d'Ivoire. Vous voyez tout ce que d'autres pays ont. Mais quand vous analysez un peu le modèle économique marocain, vous constatez que RAM marche mieux. Parce qu'au niveau du Maroc, ils ont un modèle économique qui leur permet de pouvoir fructifier rapidement les destinations. Même si eux aussi, ils ont peut-être ils essaient de titiller Ethiopian. Maintenant, dans d'autres pays, par exemple, vous venez Air Sénégal, vous allez prendre Mauritius, vous avez des destinations, Équerre par exemple au Congo, c'est les compagnies qui marchent ici ou bien qui sont très à flot à cause justement de l'investissement qui est lourd, de la mauvaise gestion aussi et de la prospection du marché. Les gens ne font pas une bonne prospection du marché. Et aussi la connectivité entre les capitales africaines. Parce que ce n'est pas facile d'avoir toutes les autorisations au même moment. On a 54 États, 54 États, et on doit faire le tour de toutes les capitales et ensuite voir aussi les destinations avec les autres continents. C'est très compliqué.
D'accord. Alors, parlons des transports aériens, évoquons ce drame à Moscou. L'aviation civile russe confirme le décès accidentel du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, voilà. Celui-là même qui fait le de lui en Afrique depuis que le groupe paramilitaire Wagner a posé ses valises au Centrafrique et au Mali. Récemment même, il était cité dans tous les médias dans une affaire de mutinerie ou pour d'autres tentatives de coup d'État contre Kremlin. L'avion qui le transportait a fait crash au nord-est de Moscou hier en début de soirée. Flambeau des démocrates s'interroge. Evgeny Prigojine mort. Voilà, une tragédie qui vient secouer la Fédération de Russie. Prigojine, qui a joué un très grand rôle dans la guerre contre l'Ukraine, s'en est Michel Tchadja.
Ah, bon, vous savez, ces gens-là, leur vie...
Quel péjoratif.
Leur vie, comme la vie de Bordénard, ces gens-là, leur vie, bon, c'est Dieu seul qui sait comment ils finissent. Et... Vous avez vu comment les conditions dans lesquelles il est décédé. On a pris le temps. Hein, on a soigné, on a pris le temps de. On consultait quel charlatan avant de publier donc de communiquer sur sa disparition. Ça veut dire que il y a beaucoup de de susceptibilité, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Heureusement qu'on a qu'une enquête est en tout cas lancée. Mmh. On va voir les causes exactes donc, de la disparition de numéro 1 de Wagner. Mmh. Mais au-delà de tout, c'est que quand vous voyez le passé, on vous jette, en tout cas projette le film de vie de ce monsieur. Bon, c'est des gens vraiment, ils posent des actes et ils disent une chose le matin, à midi, ils disent le contraire, à 20h, ils disent autre chose. Bon, c'est difficile de savoir concrètement, de connaître,
la personnalité.
La personne, c'est des personnes comme Bob Denham, je les mets dans le même registre. Mm. Et donc, seuls, peut-être les Russes, ou peut-être ceux qui l'ont servi depuis de longues années, peuvent vous dire concrètement ce qui se passe. Nous, on est de loin, nous analysons la situation, mais c'est que c'est des gens, quand vous les voyez, c'est que leur fin n'est pas toujours très propre. En tout cas, ces personnages, quoi, j'allais dire. Mm. Voilà, donc on va dire simplement, c'est un être humain, c'est paix à son âme.
Paix à son âme. Alors, Ambroise Kondjo.
Moi, je voudrais remonter un peu pour ceux-là qui polémiquaient autour des milices privées qui, dans le cas de la Russie, fait jaser partout. La Russie n'est pas le premier à avoir des milices privées ou des groupes de militaires privés. Mmh. Ceux-là qui en avaient dans le temps, c'était les Américains. Ils l'avaient utilisé au Vietnam. C'était les Anglais. Ils en ont utilisé en Afrique du Sud et ailleurs. Et donc, ce pourquoi juridiquement, les Américains sont loin d'aller sur ce terrain pour pouvoir critiquer quoi que ce soit. Quand vous écoutez les médias fixes, tout ça là, vous savez ce que j'appelle les médias fixes. Mmh. Quand vous les écoutez, les médias de propagande, vous comprenez que c'est pour justement enfoncer la Russie et ses milices. C'est-à-dire, Poutine ne fait rien sans regarder le droit international. Quand vous lisez bien, c'est, selon certains experts, c'est un monsieur qui maîtrise le droit international. Et il l'utilise avec minutie. Ils sont très méticuleux en matière de respect du droit international. Ne parlons pas de guerre en Ukraine. Mmh. Ça, c'est un autre débat aussi. Parce que ceux-là qui sont les grands maîtres chanteurs du droit international, des droits de l'homme, c'est eux qui sont les premiers à les violer. Revenons maintenant au sujet concernant Prigogine. Mmh. Prigogine, vous savez, les gens l'ont porté en Afrique, ici, pour avoir apporté son appui militaire dans le privé, certainement, et absolument, en Centrafrique, au Soudan, et en Libye, et tout particulièrement en Mali. C'est ce que les gens ont salué. Mais, même si le Mali qui a été très intelligent en disant que lui ne traite pas avec les milices privées, il traite avec la Russie. Et selon certains écrits, certaines enquêtes, vous comprendrez que Prigogine ne vient pas ex nihilo. C'est-à-dire que c'est une milice qui a créé demain, par Poutine lui-même, en tant que ancien chef des services de renseignement de la Russie, et un ancien cuisinier, normalement à qui on a confiance, parce qu'un cuisinier, c'est l'homme à qui on a plus confiance dans la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Et un ancien cuisinier, on ne peut que lui léguer quelques héritages, quitte à lui de devenir milliardaire ou pas. Mais il y a toujours des ristounes que le patron reçoit, c'est dans tous les pays. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Prigogine est tombé en disgrâce aux yeux de certains de ses soutiens, que ce soit en Russie ou en Afrique. C'est ça sa dernière sortie. Parce que quand certains prennent de zèle là, ils pensent qu'ils sont maintenant au-dessus, leur faiseur de roi, qui veut devenir roi, qui veut chercher même à remplacer le roi, c'est ce qui lui arrive souvent. Moi, j'ai écrit sur les plateformes, lui, il est témoin, que moi, je ne cautionne pas ce qui est traître. Parce que je le dis toujours ici, dans ce média, que quand Judas a pris le, comment vous l'appelez, chez nous on dit Kevin là, quand il a pris la sacoche d'argent, est-ce qu'il a pu manger ça? Il n'a pas pu utiliser la sacoche d'argent quand il est arrivé Jésus-Christ. Le mal pour lui, c'est que lui-même, il a vu l'argent, mais il a jeté, il s'est allé mis la corde au cou. C'est ça, peut-être, qui est arrivé à Prigogine. Maintenant, dis, qui a tué Prigogine? Qui est derrière cet attentat, l'hélicoptère? Ce qui est une probabilité forte. Parce que quand, aujourd'hui, on nous dit que l'Ukraine est en pleine fête nationale, qui sait si le zinzin, j'ai l'habitude de l'appeler, le comédien nazi, qui aussi attise le feu pour pouvoir galvaniser sa troupe qui est en déconfiture avancée sur le terrain de la, de comment ils appellent ça, la contre-offensive, non. Il est totalement en déphasage et en déconfiture avancée face à la Russie. Il peut vouloir faire quelque chose pour galvaniser la troupe sur le terrain en éliminant le premier des chefs de corps qui le met en difficulté sur le terrain. D'autre part, quand Poutine aussi disait que les Turcs n'ont pas leur place en Russie, vous savez, un ancien chef de service de l'entraînement de Russie, c'est de quoi il parle. Pour décourager les éventuels arrivants sur ce terrain de la traîtrise, bon, moi je n'en sais rien, mais aussi, ça peut aussi être un accident. Mais moi j'attends les services de l'enseignement israélien et la CIA pour confirmer que rien ne puisse, ce n'est pas les services de l'enseignement russe qui viennent dire que Poutine a été tué. Si c'est un attentat qui est venu de l'extérieur, Prigozhin. Si c'est un attentat qui est venu de l'extérieur, vous allez voir les services de renseignement, les FSB, c'est ça, non, les Russes vont le dire clairement que c'est soit la CIA qui est derrière, ou soit c'est l'Ukraine. Mais d'accord. Si c'est eux, moi j'attends. Mais ce qui est étonnant, oui, c'est le fait pour sortir, c'est le fait de que les Occidentaux tirent rapidement les conclusions, surtout Biden qui dit que Poutine serait derrière. Ça, c'est trop hâtif pour un chef d'État de ce niveau-là.
D'accord. Justement, Jean Le Grand Polorini, cette disparition devrait réjouir certains qui avaient déjà placé cette société paramilitaire russe sur la liste des organisations terroristes.
Oui, il faut dire que Prigojine est le numéro un, mais depuis qu'il est en disgrâce avec son maître Vladimir Poutine, moi, je crois peut-être que Poutine avait déjà commencé par planifier un plan B afin de suppléer l'homme. Parce que c'est difficile d'avoir un traître et continuer pas à collaborer avec lui. Et depuis cette disgrâce, beaucoup disaient que ses jours étaient comptés en Russie. Mais bon, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est un crime? Nous ne saurons le dire. Seulement, nous retenons que l'homme qui a dirigé cette milice, qui a œuvré au niveau du Mali, de la Centrafrique et de beaucoup d'autres pays, et aujourd'hui n'est plus. Maintenant, la question qu'on se pose, quel sera l'avenir de Wegner en Afrique? Quel sera son avenir?
Surtout qu'il y a quelques jours, on l'a vu dans une vidéo, il promettait aux Africains de finir avec les terroristes.
Effectivement, voilà. C'est autant de questions qu'on se pose. Est-ce que le maître du Kremlin a déjà pensé à le remplacer ou a déjà trouvé une architecture? Nous saurons le dire, mais je crois que les jours à venir nous édifieront davantage. Mais pour en revenir au niveau des milices, milices privées, et comme Ambroise l'a dit, ce n'est pas la Russie qui est la nouvelle dans le domaine. Vous avez déjà les États-Unis avec les Blackwaters. Au niveau de la France, il y avait Bob Denard et compagnie. Vous savez, souvent, les Occidentaux ont cette habitude de couvrir ce qu'ils font en bien. Mais une fois que c'est un adversaire qui le fait, ça devient mauvais. Ils ont une vision unipolaire du monde, ce qui n'est pas mon fond normal. Et je crois que véritablement, il va falloir que les Africains eux-mêmes comprennent la géopolitique et ne plus se laisser berner. Parce qu'aujourd'hui, le monde est multipolaire. La manière dont les gens ont conduit le monde avant ne peut plus se conduire de cette manière aujourd'hui. Et c'est de bon temps que les Africains essaient de diversifier les partenariats. Parce qu'avant, nous étions dans un partenariat, ma foi, qui ne nous a pas amené loin. Vous avez vu comment au Mali, pendant longtemps, malgré qu'il y avait le G5 Sahel et tout ça là, les terroristes n'ont pas pu être défaits. Mais depuis que la Russie est entrée en jeu avec Wegner, il y a des revers que les terroristes sont en train de rencontrer. Et bon, est-ce qu'il va falloir continuer de collaborer avec eux? Je crois que la décision est à ces pays qui sont indépendants de choisir vraiment quelle collaboration faut-il avoir. Il est vrai que l'État malien et les autres disent qu'ils ne collaborent pas directement avec Wegner, mais avec la Russie. Mais tout le monde sait que Wegner est un pur produit de Poutine, mais les jours à venir nous édifieront davantage.
D'accord.
Je l'ai tantôt dit.
D'accord. Merci. Elon Matisogbe.
Bon. C'est vrai que depuis hier, on a l'information, mais moi, j'ai toujours pris ça avec des pincettes jusqu'à ce matin. Mais je crois que là, c'est confirmé. Prigojine a péri dans un crash d'avion. Maintenant, comment ça va se passer? Quelles sont les conséquences de ce décès tragique du numéro 1 de Wagner sur la milice en Afrique? Je crois quand même que les uns les autres vont tirer des conséquences. Comme Michel l'a dit, rien n'arrive par hasard. Et moi, j'ai toujours dit que je ne crois pas au hasard. Et voilà quelqu'un qui a menacé le président russe même. qui se retrouve aujourd'hui 6 pieds sous terre à cause justement de d'un crash d'avion. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'il devrait périr comme ça? Et il n'aurait pas su lui-même. Et comme on l'a dit, la mort n'avertit personne. Maintenant, sur la présence de Wagner sur le continent, je crois quand même que ça va permettre de redistribuer les cartes parce que ça fragilise d'abord la milice, il faut le dire. Arriver à trouver un numéro 2, oui, ils vont trouver un numéro 2, mais est-ce que ce sera la même
le
façon?
Le numéro 2 est aussi, aussi péri avec lui.
Oui, bon, je pense, je parle de son
remplacement. Il y aura certainement
d'autres. Voilà, un successeur. Mais est-ce qu'il aura la même carrure que Prigogine? Parce que vous savez, quand moi j'ai suivi complément d'enquête sur TF1 par rapport à la milice Wagner, avec tout ce qu'on fait à ces gens-là avant qu'ils ne deviennent des membres de cette milice-là, déployés sur des opérations de guerre, vous n'allez pas croire. Et moi, le jour-là, j'étais tétanisé parce qu'il y a quelqu'un qui a démissionné de cette milice et qui a raconté des choses horribles. Et quand vous avez...
C'est souvent, les médias français, il faut aussi prendre avec les gants.
Et l'homme poursuivi, oui.
Oui, bon, en réalité, quand Prigogine, vous savez, quand on est dans un mouvement où le patron meurt subitement, c'est difficile d'organiser la succession. Et si vous ne savez pas faire, si vous organisez la succession de façon légère ou de façon rapide aussi... vous allez tuer l'organisation. On l'a vu souvent, les grands groupes qui étaient des groupes dans le Sahel, etc. Quand leur numéro 1 est parti, c'est fini, on a décapité le mouvement. Donc je crois quand même qu'au niveau de Wagner, les chefs d'État, le Mali, le Burkina, je crois qu'ils vont commencer déjà à se passer des coups de fil pour savoir exactement comment ils vont procéder. Parce que sur leur territoire, c'est Wagner qui assure la sécurité et tout ce qui va avec. Donc je crois que les coups de fil doivent pleuvoir toutes ces capitales pour savoir exactement ce qui va se passer.
D'accord, Michel Chadia, d'abord. Je voudrais rassurer l'homme. Wagner, ce ne sont pas des Indiens. D'accord. Les Indiens, quand le chef meurt, c'est fini. Ici, on parle de Russie.
D'accord. Michel Chadia.
Moi, je pense que l'avenir de Wagner en Afrique, ça ne va pas poser grand problème. C'est un grand problème. Parce que déjà, à partir du jour où Prigogine a tenté
de renverser
Poutine, c'est depuis le jour-là que je pense que la réduction des cartes avait commencé. Prigogine savait lui-même qu'il était dans une mauvaise posture par rapport, d'autant plus que Poutine lui-même a dit qu'en 2021-22, ils avaient, l'État russe a injecté de l'argent dans le système de fonctionnement de cette société. Donc ça veut dire quelque part que Poutine même était en train de voir comment
le remplacer.
Et donc sa disparition ne fait que éclaircir le ciel pour ceux qui voulaient le mettre de côté. Et la présence les éléments de Wagner qui sont sur le continent africain, je pense que rapidement, puisque nous sommes depuis la guerre en Ukraine, le monde est en deux voire en trois parties. Et aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Je suis sûr que actuellement, alors nous parlons, il y a des choses qui se font pour voir dans quelle mesure cette société, comment faire pour que cette société puisse continuer en Afrique et surtout que elle est déjà bien assise comme au Burkina, au Mali d'abord, au Burkina, en Centrafrique. Donc ça ne va pas poser beaucoup de problèmes pour son avenir en Afrique. D'autant plus que aujourd'hui il y a des voix qui s'élèvent dans des pays où Wagner n'est pas encore là, devenir vite
même.
D'accord. Ça. Oui, rapidement pour sortir du sujet, rapidement.
Je crois qu'aujourd'hui il y a aussi la polémique autour de cette mort qui serait suspecte. Parce que certains disent que c'est encore une machination du Kremlin pour pouvoir déjouer les choses. Moi, je me rappelle le jour là où les rebelles sont entrés la capitale russe, c'est... Comment on l'appelle ?
Moscou.
Moscou. C'est-à-dire que c'est le jour là, surtout les sorties bizarres et hasardeuses de ce monsieur qui racontait sa vie avec son crâne là. Quand il... C'est-à-dire, je me suis emporté à un moment donné parce que ça faisait le lit des Occidentaux et de l'Ukraine. Bon, on m'avait aussi dit que c'est l'habillage pour pouvoir tromper l'adversaire. À un moment donné, moi-même, je l'ai même soupçonné d'être un agent des services secrets étrangers. Aujourd'hui, il pense avoir des milliards, tout ça là, mais il n'est pas plus puissant que le roi, parce qu'il y a un roi.
D'accord, merci. Alors, nous découvrons un article dans Ouara les Vainqueurs, « La RAC Togo recadre la communauté Manin du Bénin », titre le journal. Michel Tchadja, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire?
Non, c'est comme son nom l'indique, c'est une communauté béninoise qu'on appelle communauté Manin qui a adressé un courrier, donc, en tout cas à travers la RAC Bénin, un courrier à la RAC Togo pour se plaindre comme quoi il y a des propos injurieux, diffamatoires et tout contre le président Patrice Talon et que la RAC Togo jusque-là n'a pas pris de mesures pour interdire ces genres ces manières de faire. Et cette communauté même va plus loin en qualifiant la position de la RAC Togo de mutisme, de rester muet par rapport à tout ceci, alors que cette communauté, en tout cas, ne connaît pas les textes qui régissent l'institution qu'est la RAC Togo, les textes du Togo. Et donc, la RAC, par l'intermédiaire de son président, a répondu donc à cette communauté pour d'abord la recadrer en lui faisant savoir ses méconnaissances. Donc, des tests en vigueur. Je ne vais pas aller dans les détails. Ceux qui ont le journal vont
aller
les méconnaissances donc des tests du Togo, parce que lorsque un média s'en prend à vous, si vous êtes une personnalité étrangère, les services publics du Togo sont là, notamment la justice et autres. C'est vers ces services-là que vous allez vous plaindre pour trouver en tout cas satisfaction. Ce n'est pas à la RAC Togo. Parce que la RAC Togo, c'est une institution autonome vis-à-vis des autres institutions de la République. Et donc, elle ne peut pas se mêler des affaires qui ne la concernent pas. Et donc, elle a renvoyé donc, à cette communauté à aller vraiment visiter donc, les tests du Togo qui, apparemment, ne sont pas bien connus par cette communauté.
D'accord. La communauté Manin du Bénin accuse la RAC. Pourtant, dans un communiqué daté du lundi 21 août 2023, son président, Peter Luani Telu, appelait les acteurs des médias au sens de responsabilité. Alors, Jean-Legrand Polorini, on ne peut pas dire que la RAC ne fait rien.
Non, la RAC est dans son devoir. Vous savez, il faut dire quand même que avec la position de la CEDEAO, notamment les chefs d'État, dont Patrice Talon, qui étaient pour l'intervention militaire au niveau du Niger, il y a les passions qui sont enflammées. C'est vrai qu'il y a eu peut-être parfois des propos, mais pas volontairement pour injurier les présidents, mais c'était juste un ras-le-bol que peut-être certains ont exprimé. C'est pour ça que la RAC est sortie peut-être pour recadrer et appeler les uns et les autres à la retenue. Et peut-être éviter les injures envers les autorités des pays extérieurs. Mais moi, je dis que quand vous regardez ce qui se passe sur les chaînes de télé, radio togolaises, comparé à ce qui se fait au Cameroun, moi, je dis que c'est le jour et la nuit. Hein, c'est le jour et la nuit. Vous écoutez les propos là-bas, mais ma foi, vous tombez des nues. Il n'y a pas de retenue. C'est-à-dire, tout sort comme cela doit sortir, mais la vie continue. Mais je crois que les Béninois ne doivent pas s'offusquer parce que les médias togolais n'ont fait que dire la vérité, parce que de façon cohérente, quand on analyse et quand on pose le débat, il n'y a pas match. Il y a des actions que les gens posent vraiment qui frisent l'irrationnel, je vais le dire ainsi.
D'accord.
Pour être plus poli.
Et l'homme?
Bon, moi je crois qu'il ne revient pas ou il n'appartient pas à une communauté de pouvoir donner des leçons de journalisme à un pays frère. Les institutions de la République sont là pour ça. Si tant est que il y a une chose qui se passe ou un délit qui a été commis au Togo par rapport à un Béninois, il y a des institutions qui peuvent communiquer. Mmh. Et je crois quand même que l'institution habilitée à le faire dans ce rôle, c'est la HAC du Bénin qui doit saisir son homologue du Togo par rapport à des cas de dérive. Et donc, les mécanismes de plainte ou de contestation sont quand même établis parce que chaque pays a sa juridiction, a ses règles, a ses lois. Donc, dans le cas du Togo, dans ce qui s'est passé là, nous tous, nous avons suivi la vidéo en question. Je crois quand même que, comme la HAC a bien fait de le préciser, il revenait plutôt à la HAC du Bénin, conformément à la procédure en cours, de saisir le ministère des Affaires étrangères qui doit transmettre le courrier à la justice pour des fins d'enquête, ou à des fins d'enquête. Et donc ça, c'est ça la procédure, parce que c'est ce que dit notre législation. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention, parce que les mécanismes sont clairs, d'un côté comme de l'autre, du côté du Bénin comme du Togo, et la loi que nous avons en matière de régulation de la presse, c'est quand même une loi qui continue de faire débat, mais qui est quand même claire sur les mécanismes de saisie de la HAC. Maintenant, c'est le lieu d'appeler aussi les confrères ou les consoeurs à plus de retenue dans l'animation des émissions interactives. Parce que justement, on a constaté qu'avec tout ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui, il y a des gens, des invités qui viennent et qui disent, qui tiennent des propos qui ne sont vraiment pas des propos recommandables. Vous comprenez? Et par exemple, vous ne pouvez pas qualifier un chef d'État d'un autre nom qu'un chef d'État. Si vous voulez l'appeler chef d'État, mais dites que c'est un chef d'État après tout. Mais en réalité, les contorsions que nous faisons en disant que oui, tel ceci, tel cela, je pense que ce n'est pas des choses qui sont recommandables sur les médias. Parce qu'au-delà de tout, les gens viennent parler dans nos colonnes sur les médias et ils repartent chez eux. Mais en réalité, après, c'est nos entreprises de presse qui en souffrent. Mmh. Et donc, c'est l'occasion d'appeler les confrères à plus de retenue, à plus de respect ou de l'éthique et de la déontologie lors de ces émissions interactives.
Mmh, d'accord, Ambrace Bodio. On peut critiquer sans insulter.
Voilà.
Vous voyez, c'est ce qu'on nous demande tout le temps.
Ici, nous faisons l'effort de respecter cela.
Et comme l'homme le disait, on ne peut pas dire que la HAC, dans ce domaine, ne fait rien. La HAC Togo, bien sûr, parce qu'elle a sorti un communiqué pour nous rappeler, donc, à l'ordre, pour nous demander de jeter un coup d'ailleurs sur le code d'éthique de à chaque fois que nous voulons écrire, nous voulons animer une mission interactive comme on le fait d'habitude.
Actuellement. D'accord. Ambrace Mondio.
Sur le principe, moi je me dis que c'est pas une mauvaise chose, parce que moi j'ai toujours prôné le journalisme universel, pas le journalisme du Togo, parce qu'il y a un journalisme pour le Togo, parce qu'il y a des lois, on vous dit qu'on encadre, dans une dictature il y a des lois qui fonctionnent selon ce que le roi veut. Vous voyez ça? Et donc, quand le roi veut que ce soit comme ça, les faiseurs de roi aussi jouent leur rôle. Bon, ça c'est la parenthèse. Maintenant, moi je me dis que la HAC est tombée dans le panneau, tombée dans le piège de cette dame-là ou de ces messieurs-là qui ont écrit des choses comme quoi tel monsieur a fait ceci. Nous sommes des journalistes, nous analysons la situation, quitte à celui que ça énerve d'aller là où il veut. Parce que la HAC ne doit pas tomber dans le panneau d'un Béninois qui écrit ce qu'il veut et comme quoi c'est elle qui fait la loi ou c'est ce monsieur-là qui fait la loi. Média Afrique, le média dont tout le monde suit aujourd'hui.
Afrique Média.
Afrique Média plutôt. Mais pourquoi la dame n'a pas porté plainte là-bas? Mais si le président du Bénin ne se plaint pas ou ne se reproche pas des choses, de quoi je me mêle? Ce sont les militants de Catalan qui ont écrit ce truc-là à envoyer à la HAC pour que la HAC vienne donner des directives. Je suis désolé. Tant que la Constitution protège la liberté de presse et que les gens savent qu'ils ont un encadrement, qu'ils sont encadrés dans leur fonctionnement, dans leur métier, ce n'est pas à une tierce personne de venir écrire comme quoi, tant. Moi, je me dis que la HAC, c'est vrai, elle peut faire son travail, mais elle ne peut pas tomber dans le panneau de n'importe qui. On critique les présidents. Fonya Singbé, ici, nous, on le critique. Mais est-ce que Fonya Singbé est passé par quelqu'un, certains militants zélés sont passés comme quoi, tant. C'est ça, on parle de la démocratie, non? Donc, moi, peut-être, ça fait le lit de la HAC aussi, profite pour sermonner un peu, cadrer les gens qui veulent dévier pour vous revenir, faire des choses. Mais la HAC ne doit pas tomber dans n'importe quel panneau.
D'accord.
La HAC régule la situation au Togo. Aucun Béninois n'a le droit d'intervenir dans les affaires du Togo. Nous débattons d'un sujet que tout le monde débat sur le plan international, y compris les médias étrangers, les médias occidentaux. Donc, il ne faut pas que des gens viennent de n'importe où, tout ça. S'il faut y commettre leur bévue pour aller tirer au Niger, moi, je ne suis pas d'accord, je vais le dire. On peut m'égorger, moi, je le dirai.
D'accord, puisque vous parlez
je suis pas d'accord avec ça.
Puisque vous parlez du Niger, allons voir l'actualité dans ce pays. Le bâtisseur titre grand dossier, CEDEAO, fermeture des frontières avec le Niger. Ça sent déjà mauvais pour tout le monde. Ouara, les vainqueurs titre menace, intimidation et intransigeance de la CEDEAO. La junte nigérienne avance. L'Algérie tente une médiation. Rencontre entre la délégation de la CEDEAO et la junte titre le journal. Fornia Singbe, l'efficacité dans la discrétion. Alors, Michel Tchadja, des menaces, des intimidations et de l'intransigeance de la CEDEAO ne semblent pas freiner, n'est-ce pas, les autorités nigériennes. Alors, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe.
Non, ça. Bon, au regard, l'analyse que nous faisons en tant que journaliste, c'est que les autorités actuelles au Niger avancent. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois que la délégation de la CEDEAO a été reçue par le général Tchiani et par le président renversé,
Monsieur Bazoum,
avec la facilitation, bien sûr, du chef de l'État togolais, cette délégation était encore au Niger, à Niamey, quand la junte a publié, en tout cas, le président de la junte a fait un discours pour dire qu'il propose une transition de 3 ans et avec une conférence, un dialogue national, pour poser la refondation d'une nouvelle république, la 8e république, puisque ils sont dans leur 7e république, donc pour voir comment poser les jalons de la 8e République, alors que la délégation de la CEDEAO était encore sur place pour... c'est une manière de dire à la CEDEAO que nous, on a notre agenda, gardez le vôtre, et on avance, on verra. Donc, ce qui est sûr, nous avons appris, comme tout le monde, que l'Algérie, qui est fermement opposée à une intervention militaire au Niger, a initié une négociation... une médiation diplomatique, si vous voulez, pour voir dans quelle mesure régler cette affaire-là. Parce que son ministre des Affaires étrangères devait normalement entamer une tournée depuis hier au Nigeria, après au Niger, d'abord au Nigeria, au Bénin, puis ensuite au Ghana. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure où nous sommes, les intimidations, les menaces et l'intransigeance dont font preuve certains chefs d'État de la sous-région, notamment Alassane Ouattara, Macky Sall et leur ami Patrice Talon, tout ça là ne semble pas ébranler la junte qui veut montrer à la face du monde qu'on ne peut pas effrayer une armée. Ça n'a pas encore que c'est l'armée nationale. Donc, quel que soit la situation, c'est d'aller discuter. C'est pourquoi je n'ai pas compris, lorsque le 26 juin, la junte a pris le pouvoir, on sanctionne d'abord avant de venir négocier. Bon, c'est une méthode, je pense que c'est bien rodé dans le système international, mais comme nous, les citoyens, on se pose la question, vous sanctionnez quelqu'un avant d'aller, mais la junte est en train de prouver que, mais si vous nous sanctionnez avant de venir discuter avec nous, nous savons aussi ce que nous allons vous servir. Et dans tout ça, c'est le peuple nigérien qui est en train de souffrir. Et aux dernières heures, ce que nous savons avec précision, c'est que tous les pays limitrophes du Niger ont commencé aussi, même ceux qui ont les pays qui ont pris les sanctions contre le Niger. Ces pays-là commencent
à sentir.
Les ports, les transitaires même ne savent à quel sens se vouer. Ça veut dire que cette affaire-là, il faut forcément trouver une solution pour lever ces sanctions, parce que personne ne va dire que non, ces sanctions-là, c'est pour les Nigériens. On n'est pas dedans. Vous allez le sentir si vous êtes à 10 000 km. Au fond, vous allez le sentir.
D'accord.
Donc, je crois dans une certaine mesure que ce qui se passe au Niger aujourd'hui doit donner à réfléchir à beaucoup de chefs d'État. Vous comprenez? C'est très important, parce que si les chefs d'État ne tirent pas suffisamment de leçons de ce qui se passe au Niger, c'est grave pour la communauté. Parce que les gens Quand, prenez par exemple, il y a des chefs d'État qui prennent le pouvoir, qui créent des postes de vice-président. D'accord ? Mais alors que c'est président, premier ministre. Des gens viennent, qui prennent le pouvoir, ils suppriment et ils mettent vice-président. Et quand ils sont en vacances ou en congé, ce n'est pas le vice-président qui assure l'intérim, mais c'est un ministre qui est choisi, un ministre du gouvernement. Ça voudrait dire que le vice-président est là pour un faire valoir. Non, mais quand vous avez des institutions comme ça, les gens vont se révolter contre vous. Mais quand vous êtes là, président, premier ministre, vous venez, vous supprimez comme vous voulez, et vous mettez pire que premier ministre, vous êtes vice-président. Oh, le vice-président est là. Et vous êtes là, quand vous êtes en vacances, vous choisissez le ministre de l'économie qui assure l'intérim de la présidence, alors que vous avez un vice-président. Non, mais ça, quand vous avez dans un pays des institutions qui fonctionnent comme ça, vous ne pouvez pas avoir de la paix. Et la paix plutôt. Vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal. Macky n'avait pas besoin de nous faire toute cette circonvolution. Mais vous êtes au soir de votre mandat. Mais déposez les clés, partez. Mais pourquoi vous voulez forcément faire de quoi, comment on appelle ça, liste, non, de... Comment vous appelez les signatures?
Oui, les signatures.
Voilà. Pourquoi on dit qu'on doit modifier la loi électorale? Il faut maintenant parrainer les listes. Il faut faire ceci. On n'a pas besoin de ça. Mais Macky, quand il prenait le pouvoir, on avait parrainé quelle liste? Mais quand les chefs d'État se comportent comme ça, il faut comprendre que les peuples vont quand même se révolter. Et ceux qui sont même avec eux, qui sont des militaires, ils sont avant tout des citoyens. Et donc, il faut rester dans la prévention.
D'accord.
Et non vouloir faire prendre des décisions qui vont mettre à l'aise toute la communauté. Parce que nous sommes tous mal à l'aise dans cette situation aujourd'hui.
D'accord. Canal des titres, intervention militaire de la CEDEAO au Niger. À quand la fin de la tragicomédie, l'Afrique aux Africains, une CEDEAO vassalisée, s'interroge le journal. Éviter la somalisation du Niger. Jean Legrand Polorigny.
Oui, c'est une tragicomédie qui se joue sous nos yeux depuis le 26 juillet, et ma foi, qui ne semble pas finir. Comment, depuis presque un mois, un coup d'État qui est à nos yeux consommé, certains parlent de tentative de coup d'État. Dans quel pays vous avez vu ça? C'est quelque chose d'anormal. Et l'expression junte, je ne l'apprécie pas parce que c'est une expression péjorative. Souvent, pour dire que c'est une bande de copains, de voyous, qui sont rassemblés pour un gain et puis qui exercent de la violence. Or, il n'en est pas. Cela n'est pas le cas au niveau du Niger. Et le mot jeune, c'est plutôt les médias mainstream qui l'utilisent. Vous savez, de ces médias desquels je parle. Voilà, c'est eux. Et nous reconnaissons que ce sont des nouvelles autorités du Niger qui sont au pouvoir actuellement. Voilà, ce n'est pas une question de jeune. Et depuis que cette affaire a commencé, que la CEDEAO est en train de proposer d'intervenir au Niger et rétablir un président qui est déjà déchu, ça frise un peu le ridicule. On se pose la question de savoir comment est-ce que cela va être fait, dans quel scénario improbable va-t-on venir récupérer quelqu'un qui a été déposé et dont la population n'a pas manifesté. Je ne sais pas de quelle CEDEAO nous parlons. Est-ce que c'est la CEDEAO des peuples que nous avons ou c'est la CEDEAO de chef d'État? Est-ce que le peuple nigérien a été consulté dans cette histoire d'intervention? Faut pas qu'on nous vende un mythe, ce qui a été fait en Libye et en Somalie et dans ces pays. Faut pas qu'on vienne nous raconter des histoires. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la CEDEAO est consciente que c'est ce qui s'est passé en Libye. On a détruit ce pays et nous payons le lourd tribut de ce qui s'est passé. Il ne faut pas aujourd'hui que le même scénario se produise au niveau du Niger. Ce n'est pas normal et cela ne va pas aller, va disloquer, je vais dire, l'espace de la sous-région ouest africaine.
D'accord. Pour sortir rapidement, avant la pause, Ambroise Pondio.
Oui, moi, je dis que la situation au Niger n'est pas réluisante du point de vue de ce que les Occidentaux veulent que cela ressemble, surtout les Français. Vous savez, on ne va pas cacher le soleil par les mers, d'autant plus qu'on sait toujours aujourd'hui l'enjeu économique et géostratégique que représente le Niger, le Mali, le Burkina, surtout le Niger, le Mali, pour la France et les autres pays occidentaux. La question qu'il faut d'abord se poser, qu'est-ce que les Occidentaux, plus de 1000 soldats américains, plus de 1000 soldats français, 325 soldats italiens, les portugais, les allemands, qu'est-ce qu'ils cherchent au Niger? Et qu'au même moment, les djihadistes sont toujours là. eux aussi, comme Michel a l'habitude de le dire, eux aussi, ils ont leur choix, ils dorment tranquille. Les Occidentaux militaires aussi sont là. Les militaires nigériens et maliens aussi sont là. Et donc, comment on peut comprendre que les gens nous disent qu'ils sont venus pour lutter contre les djihadistes terroristes? Et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on positionne les militaires occidentaux quelque part pour bloquer les militaires loyalistes pour ne pas aller là-bas et pouvoir protéger certains individus. C'est la grande question que les gens se posent. La preuve aujourd'hui, la force Barkhane a fait 8 ans au Mali sans rien faire. Plutôt, ça a permis aux djihadistes d'avancer vers le sud.
D'accord.
Et la mèche de ce que les Français ont foutu avec le MNLA dans le nord du Mali, dont le porte-parole est bien nourri, logé, véhiculé à Paris, c'est pratiquement la même chose que nous sommes en train d'assister au Niger. Donc, ça dit, je serai à la place des Français. Si l'ambassadeur de France est à l'écoute actuellement, je voudrais juste lui envoyer un message de dire à M. Macron qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent.
D'accord.
On va revenir sur ce sujet. Hein,
merci.
Parce que, ça y est, je vais envoyer un message important.
On aura le
aux
temps.
Français.
Alors, nous marquons une pause et on revient.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour et comme vous le savez, c'est le moment d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Allô?
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Ouais. C'est monsieur?
Monsieur Gérard.
Monsieur Gérard, on vous écoute. On vous écoute.
Bien, moi, souvent quand j'écoute, excusez-moi, nos débats, je dis, bon, je ne veux pas créer de polémique, hein, mais je vais simplement dire que nos journalistes allaient aux informations et faisons des analyses objectives, de vraies, avec une vue sur l'horizon. Malheureusement, oui, monsieur Ambroise, moi je constate qu'il y a un journalisme à la togolaise. Monsieur Tchatcha, monsieur Elom, monsieur Kondjo, cela se constate dans l'analyse concernant hein, la plainte ou bien le communiqué de la communauté béninoise que vous n'avez pas lu ou écouté le communiqué ou la déclaration de la communauté en question au Bénin. La communauté n'a fait que s'indigner dans un communiqué lors d'une conférence de presse, c'est-à-dire on blesse quelqu'un, quelqu'un est partisan ou pas, la personne est indignée de la manière dont elle même n'apprécie pas que des langages, des choses se disent contre des gens et d'une certaine manière appeler les gens d'un certain surnom, etc. Ce qui veut dire la communauté a demandé lors de cette conférence de presse, je dis bien demandé clairement à la race béninoise de voir son homologue togolaise pour nécessaire à faire, à savoir une action intentée par voie judiciaire contre cette façon de parler d'un chef d'État ou une excuse publique de l'incriminer, c'est-à-dire journaliste ou média togolais. Si la RAC, vous devez observer aussi que si la RAC a lancé ce communiqué bien avant des heures, bien avant le lundi matin où la conférence de presse a eu lieu, c'est parce que très rapidement son homologue ayant été saisi a téléphoné à son homologue togolais qui a cette affaire-là. C'est pour ça que la RAC a lancé un communiqué il y a quelques jours. Et si vous êtes vraiment aux informations de la RAC, vous devez le savoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Lundi matin, cette conférence de presse a été même relayée dans le journal de 13h sur le média béninois ORTB. Mais le soir, ça n'a pas passé parce qu'on ne veut pas créer un truc diplomatique. La manière dont la population va considérer ce qui se passe. Donc, ce n'est plus passé à 20h.
D'accord.
Souhaite que, pour être avisé. Non, on a l'impression aussi qu'on a toutes les informations et tout en même temps, et on détient même le secret de la chose. Aujourd'hui, sur cette affaire du Niger, jusqu'à présent, il n'y a pas de pertinence dans le discours de la société civile et des journalistes. Rien d'instructif.
D'accord. Merci, M. Gérard. Alors, les journalistes veulent rapidement réagir avant de prendre d'autres appelants.
Je pense que ce monsieur, il tente de nous accuser de ce dont il ne sait même pas, lui-même ne sait pas. Parce que quand il dit que nous-mêmes, on n'est pas allé aux informations, nous avons le courrier de la HAC, nous avons le courrier de la communauté. Et nous l'avons lu dans des termes discordants. Comment il s'appelle, Gérard ou quoi là? Dans des termes discordants. Et que mais la HAC togolais, la HAC togolaise avait quand même ce droit aussi de moi j'ai même dit que la HAC togolaise n'est pas allée vraiment n'a pas répondu à la hauteur donc des termes utilisés par la communauté. Sinon la HAC pouvait aller même dans des termes beaucoup plus durs que ce que ce qu'elle a sorti comme communiqué et nous l'avons tous lu. Il ne peut pas nous dire que parce que nous n'avons pas la plainte donc de la communauté que nous nous sommes basés seulement sur ce que la HAC togolaise a sorti. Non, je pense que c'est lui-même qui ne maîtrise pas le sujet, qui n'arrive pas à dire que il faut qu'on aille lire. On a tous ces documents, nous les avons.
D'accord. Donc, nous allons revenir sur ce sujet.
De nous parler.
Les auditeurs attendent. Nous allons revenir sur ce sujet. Allô.
Allô. Bonjour, le Colombe.
Oui, bonjour.
Monsieur Gadou,
on vous écoute.
Oui, ça va très bien. Moi, je voudrais vous demander, si par exemple, les chefs d'État battent en guerre contre le Niger, et le Niger, les putschistes sont toujours au pouvoir, est-ce qu'ils peuvent se regarder ensemble après cette crise? Ouais, moi, les chefs d'État battent en guerre sur Macron, aveuglement, ce n'est pas normal. Bon, voilà comment nous nous trouvons déjà en Afrique. Ils vont créer encore cette guerre. Moi, ce que je voudrais dire, l'ambassadeur de France n'a qu'à dire à Macron, il a échoué. D'ailleurs, Macron n'est pas expérimenté. Non, c'est un arrivé, c'est là venu accidentellement au pouvoir. Donc, moi, ce que je voudrais dire, Macron n'a qu'à sortir de l'Afrique et laisser les Africains en paix. C'est des multicons, c'est quatre chefs d'État. C'est des multicons. Merci, bonne journée.
D'accord, merci, M. Gado. Allô?
Oui, bonjour, Tato.
Oui, bonjour, c'est monsieur?
Benoît Dagouin.
Ok, on vous écoute.
Moi, je voulais tirer le chapeau et je m'incline devant le président Poutine. Oui, le président Poutine, je le nomme, si c'est à moi, je le nomme le secrétaire général des Nations Unies. Parce que il m'impressionne, quoi, vu la déclaration avant la confirmation de la mort de Prigozhin, la déclaration du président américain, le président Poutine, j'aimerais même être un russe, quoi. Bon, je reviens à la CEDEAO, parce que je ne vais pas développer mon analyse sur la Russie. Et bon, je reviens à la CEDEAO. Ils vont tuer, le coup d'État au Niger n'a pas fait de victimes. Et aussi, ils disent que la fermeture des frontières. Je ne sais pas de quel pays, le Niger est fermé. Et on ne dirait pas sept pays. Et c'est le Bénin, le Nigeria qui... Bon, moi, j'aimerais leur dire de revoir leur constitution, comme l'a dit un confrère, votre confrère maintenant, de ne pas toucher à la constitution, de ne pas rien faire, les parrainer et remettre le compteur à zéro. Il faut qu'ils travaillent sur ça. Il faut que la CEDEAO, communauté économique, ou une communauté de chefs d'État, là, il faut qu'ils travaillent sur ça. Nous, les peuples, là, sommes fatigués.
D'accord.
Merci.
Merci à vous. Allô?
Oui, monsieur, bonjour.
Oui, bonjour. C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui, la HAC n'a fait que appliquer nos textes. Là, c'est point barre. Si c'est pas que les tests sont respectés, là on va en dire. Si la HAC a respecté les tests, on applaudit. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens trouvent à dire. Et puis, pour ce qui s'est passé hier entre le ministre avec les établissements, les directeurs d'établissements, là, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'on nous écoute dans des émissions. Donc il faut sévir à ce côté parce que les Togolais tu les diront pas la queue et on va encore augmenter le frais de scolarité. Franchement j'étais ravi pour attendre ce matin que le ministre a eu une rencontre avec les fondateurs hier. Bon pour le Niger.
Oui rapidement.
Oui je vais aller rapidement. Et même nous on s'organise même pour aller porter plainte contre ceux qui font des déclarations Matanga contre le Niger. Ça, c'est bientôt. Merci.
D'accord, merci, monsieur Sylvain. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Mes directeurs, bonjour.
Bonjour, papa Sibiti.
Monsieur Isidore, mon directeur, bonjour.
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 Bon, ce qu'il venait de dire, moi, la CEDEAO, est-ce que c'est pour protéger son peuple, ses États, ou bien c'est pour aller en guerre contre ses États? Moi, c'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec monsieur Isidore. Il y a les djihadistes là. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous libérer d'abord. Hein? Et puis, on ne fait pas un coup d'État. Qu'est-ce qui a causé le coup d'État? Merci beaucoup.
Merci à vous, papa Sibiti. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
Et Didier.
Monsieur Didier, on vous écoute.
Oui, moi je trouve qu'il faut que la HAC applique aussi la loi, bien rien que la loi, quand il s'agit de journalistes togolais, passer d'abord par la justice avant de fermer les journaux, de sanctionner les journalistes. Mmh. Et puis, monsieur, c'est-à-dire bien les autres là. Bon, il y a aussi, bon, quand même si nous aussi nous voulons critiquer les chefs d'État, sincèrement, faut que nous sachions comment le faire. Nous critiquons bien fort, mais moi je suis personnellement le premier à le critiquer, mais on prend les gants. Si quelqu'un qui vient directement à la télévision dit, il a les preuves qu'un président d'un pays est dealer de drogue, c'est dangereux, il faut le répliquer. Ça s'est passé le jeudi. Mmh. C'est dangereux ce qu'il a. Est-ce qu'il peut dire ça au Togo? Même les ministres qui sont là, les éléments de Yac l'ont déjà mis en prison. Il faut leur, quand ils viennent dire les trucs comme ça, il faut leur. On a les manières d'insulter, de dire que tu es imbécile, mais il y a une manière de le dire. Bon, ceci étant dit, je reviens sur le Niger. Mais si la CDA n'avait pas réagi, quelle serait la réaction? Si, admettons qu'ils ont fait le coup d'État, la CDA n'a pas réagi, l'a applaudi. Tout le monde sera contre la CDA aujourd'hui. Et puis aussi, il faut que les pushistes, bon, ils n'aiment pas qu'on les appelle les nouvelles autorités en Guinée. Il faut qu'ils laissent aussi les partisans de Bazoum manifester pour qu'on s'y voit. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. 37 intellectuels écrits. On a mis 2 en prison. Hier seulement, ça s'est passé. Est-ce que c'est quelle façon de commencer par gouverner un pays comme ça? Et puis quand les gens viennent, ils nous disent, il ne faut pas que nous rentrons dans cette hypocrisie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis contre le coup d'État, le coup n'était pas bien. Et après? On est contre la chose. Et après? Les conséquences, c'est quoi? Mais on accepte ça. Non, faut jamais accepter un coup d'État. Même moi, je suis le premier critique de forêt. Si un coup d'État ici, là, c'est moi qui suis le premier. Parce que les militaires là viennent là. On ne sait pas, on sait comment ils viennent, on ne sait pas comment ça finit. Mmh. Ce qui se passe en Guinée, vous avez vu, les politiques ont produit Doumbouya. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec eux-mêmes? D'accord. Mais il faut faire attention, extrêmement attention. Soyons sages pour les coups d'État qui viennent là. Mmh. Et puis, c'est le Togo. Quand nous-mêmes, les États, ils affaiblissent la CEDEAO, on fait des lois, on ne les applique pas, on les applique quand ça. Regardez ce qui s'est passé au Togo. La CEDEAO est venue à Dubaï. S'il n'y a pas la CEDEAO de la France, le régime du Togo ne serait pas là aujourd'hui. S'il n'y a pas la CEDEAO, c'est eux qui nous ont posé. En ce moment, les partisans, ils disaient la CEDEAO fait bien, ça va bien. Aujourd'hui, quand ils sont contre leur position, on dit qu'ils ne font pas. Pourquoi le Togo n'a pas su le pourquoi de la CEDEAO?
D'accord.
D'abord dans nos maisons.
Merci, monsieur Didier. Merci beaucoup. Nous prenons un dernier auditeur. Allô?
Oui.
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, on vous écoute.
Oui. Et j'aimerais bien dire aux journalistes togolais que de se rappeler de ce qui se passe actuellement à propos de la HAC. Il faut qu'ils ne doivent jamais l'oublier. Et à la HAC, je ne peux pas éduquer mon enfant à la maison d'être poli et lorsque cet enfant va prodiger des injures à l'encontre d'un autrui, et je vais lui poler. Donc, faut que nos journalistes vraiment soient bien raisonnables. Et surtout, ils doivent jamais oublier. Ils ont dit, la HAC a appliqué les tests. Nous, on est là, nous les auditeurs, nous on est là, et on sera toujours là. Merci.
D'accord, merci monsieur Kofi. C'est donc le dernier appelant. Rapidement, réaction et l'homme.
Oui, moi je vais réagir par rapport justement à tous ceux dont on parle au niveau de la HAC. Il faut reconnaître que ceux dont on parle, ce n'est pas des journalistes qui ont tenu ces propos. Première chose, il faut que les gens notent sur Bic Rouge. Les déclarations qui ont été faites sur les médias en question, ce ne sont pas des journalistes qui les ont faites d'abord. même si c'est dans des émissions animées par des journalistes. D'accord ? Maintenant, parce qu'il faut faire la distinction des choses. Et ici, on a tous condamné le fait qu'on appelait nos confrères, y compris nous-mêmes, à plus de professionnalisme. On a dit que critiquer, ce n'est pas insulter. Et je pense que jusque-là, nous tous, nous avons fait preuve de courtoisie, de mesure dans nos propos en ce qui concerne tous les sujets dont nous avons débattu ici, même sur d'autres chaînes. Maintenant, si quelqu'un ou un auditeur appelle pour dire que voilà, il faut aller à l'information, on n'a pas toute la mesure des choses, etc. Vous savez, il faut dépassionner le débat. Vous comprenez ? Le Togo et le Bénin, c'est deux peuples frères, deux pays frères. Et quand vous fouillez dans les familles togolaises, il y a un peu de béninois. Quand vous fouillez dans les familles togolaises et béninoises, il y a un Togolais qui se cache quelque part. Et personne n'a envie de mettre les deux pays enfin, dos à dos. Mais il faut que les gens sachent. Parce que, attends, nous quatre qui sommes ici, là, plus toi, Fousséni, ça fait cinq. Les gens pensent que ce dont on parle au niveau de la HAC par rapport à ça, qu'on n'a aucune idée de ça. Qu'on n'a pas lu. Mais il résume tout le courrier ou la réaction de la communauté à s'indigner. Non, mais il y a plus que s'indigner dans le test là. Et donc, la hack du Togo n'a fait que réagir promptement. Et comme Michel l'a dit, même avec mesure dans les propos, parce que c'est une institution de la République, vous comprenez. Et donc, si, comme je l'ai dit tantôt, le mécanisme est clair, nul n'est censé ignorer la loi. Si une communauté, si on saisit la hack du Bénin, de voir avec son homologue du Togo, pour une affaire, c'est vrai que les propos ont été durs, mais ce n'est pas les propos tenus par un journaliste. Ça, il faut que j'insiste dessus. C'est des propos tenus
par un invité.
Par un invité qui n'est pas journaliste, même si ça engage la responsabilité de la chaîne. D'accord ? Donc, si la HAC du Bénin saisit son homologue du Togo, oui, mais la HAC du Togo doit répondre à son homologue du Bénin, peut-être en lui disant que le mécanisme au Togo, c'est que vous saisissiez le ministère des Affaires étrangères qui transmet à la justice. Et la justice fait son travail. Et si la justice juge l'affaire, vous avez les conclusions et on renvoie l'affaire. Et on dit que, bon, tel média, telle personne est sanctionnée au coup d'une sanction. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne va pas aller outre les règles de la République ou les lois établies pour venir trancher l'affaire. Un peu comme si la HAC du Togo se rendait responsable d'une situation, se rendait complice de ces propos qui ont été tenus sur un média par un invité qui n'a pas la casquette de journaliste. Voilà.
C'est justement ce que je disais, que la HAC ne devait pas tomber dans ce panneau. Moi, je dis que... la question, celui-là même, ceux qui ont appelé pour dire des choses. Nous, il ne faut pas comprendre le ton utilisé par un journaliste à l'insulte. Personne n'insulte quoi que ce soit ici. Je me rappelle très bien des médias français traiter leur président de voyou, de tous les noms. Mais aucun média français n'a dit que c'est... Aucune institution n'a dit que ça, c'est une insulte. Il y a des journaux ici même qui ont titré ça. Donc, pour dire qu'en réalité, nous sommes là juste pour... analyser une situation dans un pays. Aucun président n'est à l'abri. Quand vous êtes un homme public, vous devez assumer, supporter tout ce qui vient vous accabler. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme public n'est pas un planton. C'est pourquoi on a tendance à dire qu'un ministre n'est pas un planton. Quand un ministre tombe de l'escalier, comme le doyen a l'habitude de nous le dire, c'est un scoop. Mais quand c'est un planton qui tombe, personne ne sait même au marché ici qu'il y a un planton qui est tombé. Donc pour dire qu'en réalité, le journaliste sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Il sait quelle analyse faire, il sait faire pour plaire, il sait faire pour ne pas plaire. Et ça ne plaît pas, si ça ne plaît pas aux gens, que les gens digèrent et acceptent ça. D'accord. Mais quand on les applaudit, ils sont contents. Tu vois, moi je voudrais envoyer juste un message à ces chefs d'État-là qui s'agitent pour aller tuer le peuple nigérien, que ce n'est pas leur job. Leur job, c'est de donner à manger à leur peuple.
D'accord, Jean-Legrand Polorigny.
Bon, les autres ont un peu abondé déjà dans le sens. Moi, je trouve juste que quand les gens appellent pour faire des remarques, qu'ils soient un peu plus polis. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire d'arrêter de faire le journalisme à la togolaise.
C'est une insulte.
C'est une insulte que moi, je n'ai pas digérée. Parce que chacun de nous, nous sommes ici avec un titre. Et comme le confrère l'homme l'a rappelé, ce n'est pas un journaliste qui a commis l'erreur, mais c'est plutôt un invité. Et ensemble, nous avons invité les confrères à de la retenue et à vraiment respecter les règles éthiques et déontologiques. Je ne vois pas encore, nous avons fait mal pour que ce monsieur vienne nous donner des leçons. Est-ce que lui, il est journaliste? Je n'en sais rien. Voilà.
D'accord.
Et maintenant, pour en revenir au Niger, je trouve que c'est la première fois que notre communauté est pressée d'aller faire partie les putschistes, que plutôt de lutter contre les bandes armées. Depuis que les bandes armées sont en train de menacer les États, aucune force n'a été mise en place pour lutter contre ces bandes armées, mais plutôt on veut mettre une force pour aller lutter contre des gens qui ont fait un coup d'État. Un, ça c'est déjà une erreur. Deux, quand on parle d'intervention, que les gens veulent justifier cette intervention en parlant de l'intervention en Sierra Leone, au Libéria et en Gambie, c'est des contextes différents. Mm-hmm. Il faut que nos citoyens soient éclairés. Il ne faut pas qu'on mélange les tranchants et les serviettes. Non, dans ces pays, il n'y avait pas d'armée. Mm-hmm. Il fallait les rétablir l'ordre. C'est autre chose. Mm-hmm. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et au niveau du Niger, c'est une révolution. Et le peuple est en phase avec ces autorités. Moi, je comprends un peu Macky Sall, Ouattara et compagnie, parce que ce qui se passe au niveau du Niger avec des coups d'État, ces derniers coups d'État pour lesquels il n'y a pas de manifestation, ça remet en cause ce qu'on appelle la légitimité, la légalité. Parce que les gens se disent la légitimité ne s'obtient plus forcément à travers les urnes. Parce que c'est un monsieur qui a été élu entre griffes démocratiquement, comme on le dit, et qui est déposé, et qu'il n'y a pas de grandes manifestations, il n'y a pas la foule dans la rue. C'est dire aujourd'hui que les élections ne sont plus véritablement un baromètre pour prouver que quelqu'un est légitime. Et moi, je trouve qu'en définitive,
d'accord,
la CEDEAO doit plutôt anticiper sur les crises, chercher les mots profonds, les origines de ces coups d'État, chercher comment les régler à la base, et pourquoi pas penser à se réformer elle-même. Parce que je crois que c'est l'intérêt principal dans ce cas-là.
D'accord. Merci à vous tous. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. C'est l'étape des cartons. Michel Chaga.
Non, moi je n'ai pas de carton. Je dis tout simplement que quand les Américains sont intervenus en Somalie, nous savons ce qui s'est passé. Et jusqu'à ce jour-là, la Somalie n'est pas normalisée. Et ça a coûté même la tête de Boutros-Boutros Ghali, qu'on a chassé à la tête du secrétaire général de l'ONU. Donc ceux qui disent qu'ils sont très prêts, que les brigades sont mobilisées, les moyens sont là, tout est là, mais les terroristes sont là depuis des années, ils ne les chassent pas. Bon, qu'ils aillent, on va voir.
Merci, pas de carton. Et l'homme, as-tu sauvé?
Non, je n'ai pas de carton. Bon appétit à toutes et à tous.
D'accord.
Je n'ai pas de carton.
Pas de carton,
également. Bon appétit à tout le monde.
Oui, un carton vert à un ami qui est aussi un petit frère avec qui on a ensemble fait le CEG, qui nous suit souvent. Barboza, il a fait le CEG à Ido Gomé. Et il nous suit habituellement tous les jours.
Très fidèle.
Il vous dit même bonjour. Donc, Barboza, je te dis bonjour.
D'accord. Merci à vous, Ambrose Pondio du journal de Guardiane, Michel Tchadja du journal Ouara les Vainqueurs, et l'homme Atis Sogbe du journal La Nouvelle Tribune, Jean Legrand Polorigny du journal Canal D. La technique a été assurée par Michel Tomega. Mise en ligne, Jérôme Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.